Il est 7h.
Aujourd'hui, on dit les profits des entreprises, où qu'ils soient localisés dans le monde, seront au moins taxés à 15%. Filet de sécurité pour que ça aille plus dans les paradis.
C'est un accord historique qui a été conclu hier pour un impôt mondial sur les entreprises. Les géants du numérique et du luxe seront concernés. 15 heures de perquisition hier au ministère de la Justice. Nouvelle étape dans l'enquête visant Éric Dupond-Moretti sur des soupçons de conflit d'intérêts. Dans ce journal aussi, une octogénaire dans l'espace. Et les Belges, en quart de finale de l'Euro de foot, rendez-vous ce soir à 21h. C'est contre l'Italie. Juste après ce journal, le journal du Tour, Marguerite Lefebvre, l'éclairage éco, Daniel Fortin et le regard international, Vincent Hervouet.
On va parler du Parlement tunisien où une députée laïc s'est pris hier des coups de pied et avant-hier des coups de poing. Ça lui apprendra à protester contre les islamistes.
Juste après, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin.
Vous ne voulez pas disputer le tournoi olympique de football, Mathieu ?
Pourquoi pas, j'ai du temps là.
Parce que c'est difficile de trouver 22 joueurs pour l'équipe de France parce que les clubs ne veulent pas tous les libérer.
Et puis enfin, avant 7h30, on va retrouver Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Arrivé hier matin, vers 9h, les gendarmes de la section de recherche de Paris et les magistrats de la Cour de justice de la République n'ont quitté la place Vendôme qu'à minuit, plus de 10 heures pour une perquisition rarissime dans les locaux du ministère de la Justice.
Bonjour Justin Morin.
Bonjour.
Cette perquisition, Éric Dupond-Moretti l'a suivie jusqu'au bout. Le garde des Sceaux qui n'a pas caché son agacement à l'arrivée des enquêteurs.
Effectivement, d'après nos informations, Éric Dupond-Moretti était extrêmement contrarié de voir débarquer les gendarmes chargés des perquisitions. Était également présent un avocat général ainsi que trois juges de la commission d'instruction qui ont, malgré la vive réaction du garde des Sceaux, pu travailler sereinement. Ils ont cherché des éléments qui concernent en particulier deux dossiers où il y a un soupçon de conflit d'intérêts. Deux dossiers dans lesquels Éric Dupond-Moretti était lui-même impliqué quand il était avocat. Dans ces deux affaires, il avait critiqué l'action de quatre juges et leur manière de travailler. Ce qui a poussé les deux syndicats de magistrats et la association Anticorps a porté plainte, c'est qu'une fois nommé garde des Sceaux, il a lancé des poursuites administratives à leur encontre. Dans cette enquête, plusieurs proches d'Éric Dupond-Moretti ont déjà été entendus. Son entourage tient à rappeler que ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces procédures, mais bien sa prédécesseur, Nicole Belloubet. Lui n'a fait que suivre l'avis de ses services, sans s'impliquer personnellement.
Et si Éric Dupond-Moretti n'a pas publiquement réagi, son avocat, lui, hier soir, a dénoncé un déploiement de force disproportionné pour cette perquisition.
Cette perquisition avait été annoncée mardi soir dans le canard enchaîné. Nous regrettons évidemment cette violation du secret de l'instruction, tout comme nous regrettons le déploiement de forces totalement disproportionné auquel nous assistons, puisque en plus des magistrats présents, il y a une vingtaine de gendarmes armés qui participent à cette perquisition. C'est un déploiement de force qui est d'autant plus incompréhensible que dès l'annonce de l'ouverture de l'instruction, le garde des Sceaux nous avait demandé de transmettre à la CJR la totalité des documents détenus par le ministère de la Justice au sujet des faits dont la CJR est saisie.
Maître Christophe Ingrin, l'avocat d'Éric Dupond-Moretti, qui ironisait même hier sur l'utilisation de perceuses et de meuleuses lors de cette perquisition pour ouvrir, a-t-il dit, de vieux coffres vides dont personne n'avait les clés.
Prochaine étape probable désormais pour le garde des Sceaux, une convocation devant les magistrats de la Cour de justice de la République pour une possible mise en examen.
Ce n'est pas encore la fin de la concurrence fiscale, mais on s'en rapproche. Hier, sous l'égide de l'OCDE, 130 pays se sont mis d'accord pour adopter un nouveau système de taxation mondiale des sociétés. Impôt fixé à au moins 15%. Carole Ferry, la mesure devrait concerner une centaine d'entreprises et rapporter des milliards.
C'est ça, les entreprises concernées sont les multinationales les plus rentables au monde, mais qui généralement payent le moins d'impôts. Cela concerne bien sûr les GAFA, Google, Facebook, Apple ou encore Amazon, qui sera bien dans les mailles du filet. Les entreprises du numérique ne sont toutefois pas les seules concernées. Le géant du luxe français LVMH, par exemple, est également dans la cible. L'accord prévoit donc de taxer les bénéfices de ces entreprises à au moins 15% et de redistribuer les gains à l'ensemble des pays dans lesquels elles ont des activités. L'aboutissement de plusieurs années de bataille pour Pascal Saint-Amand, responsable des questions fiscales à l'OCDE.
Les entreprises, elles payent un impôt sur les bénéfices, sur les profits, et hélas, elles l'ont payé de moins en moins avec la globalisation qui n'était pas régulée fiscalement. Aujourd'hui, On met fin à ce jeu-là et on dit les profits des entreprises, où qu'ils soient localisés dans le monde, seront au moins taxés à 15%. Filet de sécurité pour que ça aille plus dans les paradis fiscaux.
La France espère ainsi récupérer 5 à 10 milliards d'euros par an, une mesure qui ne devrait toutefois pas entrer en application avant au moins 2023.
Et reste maintenant à convaincre l'Irlande, la Hongrie ou des pays comme la Barbade, hein, réputés être un paradis fiscal.
7h05 sur Europe 1. Ils risquent d'en être pour leurs frais, alors que certains, notamment parmi les sénateurs, plaident pour une accélération du processus de désignation du candidat des Républicains à la présidentielle. C'est du côté des prétendants que ça risque de pêcher.
Avant un bureau politique mardi prochain, le sage Jean Leonetti, chargé de l'organisation de la désignation, a rencontré les trois possibles candidats, tout juste réélus dans leur région, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Aurélie Herbemont.
Pour Xavier Bertrand, la réponse est toujours non. Pas question pour le président des Hauts-de-France de participer à la moindre primaire avec les autres prétendants de la droite. Malgré un long rendez-vous en visio, Jean Leonetti n'a pas réussi à faire changer d'avis celui qui s'est déjà déclaré candidat à la présidentielle. Xavier Bertrand continue à tracer sa route en solo malgré les pressions amicales de LR. Mais on va continuer à se parler et avancer en parallèle, confie le maire d'Antibes. La seule chose sur laquelle les deux hommes sont tombés d'accord, la nécessité d'avoir au final un seul candidat sur la ligne de départ. Xavier Bertrand rêve d'être celui-là. Problème, ses rivaux potentiels ne désarment pas. Valérie Pécresse défend l'idée d'une primaire ouverte au-delà des militants LR. Et Laurent Wauquiez veut que le principe d'un vote soit acté rapidement, si possible dès mardi au bureau politique. Bref, rien n'est réglé.
Et après les élections dimanche, la désignation des présidents de région. Aujourd'hui, hier, le processus dans les départements a permis à la droite de se renforcer dans 72 départements contre 70 jusque-là.
Les liens réaffirmés entre les pesticides et certaines maladies. L'INSERM vient de dévoiler une nouvelle expertise qui pointe une présomption forte de corrélation entre l'exposition à certains produits phytosanitaires et le développement de 6 maladies graves.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Pour en arriver à ces conclusions, l'Institut de recherche a compilé les résultats de très nombreuses études.
Oui, ces chercheurs de l'INSERM ont analysé 5300 résultats d'études et ils concluent à une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides et 6 maladies graves. Il s'agit de cancers de la prostate, de lymphome, de myélome et de la maladie de Parkinson pour lesquels les risques se confirment. Et cette expertise vient aussi rajouter à la liste 2 autres types de problèmes de santé que sont les troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, du raisonnement et des troubles respiratoires comme la bronchite chronique par exemple.
Et le développement de ces maladies, il est lié à quel type d'exposition aux pesticides, Anne ?
Alors le public le plus à risque, ce sont les professionnels, les agriculteurs ou les ouvriers qui manipulent régulièrement ces différents fongicides, herbicides, insecticides. Mais les chercheurs pointent aussi un risque d'exposition domestique pour ceux qui utilisent ces produits à la maison ou pour les riverains d'exploitations agricoles. Mais cette expertise de l'INSERM n'a pas permis d'isoler une liste de produits en particulier et elle n'aboutit pas non plus à des recommandations. Ce n'est pas notre métier, ont précisé les chercheurs. L'objectif de ces travaux est d'aider les décideurs politiques.
Les explications d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Les premiers départs en vacances, journée classée orange au niveau national dans le sens des départs et rouge en Île-de-France. Pour ce qui est de la SNCF, préavis de grève levé pour les TGV Ouigo après l'obtention d'une prime pour les contrôleurs.
Des vacances à la campagne ou sur le littoral, pour nous, la montagne aussi. Tiens, pour d'autres, ce sera encore plus haut. Dans l'espace, la course à l'échalote des milliardaires se poursuit.
Oui, départ le 11 juillet pour le patron de Virgin Galactique, Richard Branson, qui a coupé l'herbe sous le pied de Jeff Bezos. Le patron d'Amazon avait lui annoncé quelques heures plus tôt un départ le 20 juillet, avec à ses côtés une femme de 82 ans, Wally Funk, qui, dans les années 60, a fait partie d'un groupe de 13 femmes ayant passé les mêmes tests que les astronautes masculins dans le cadre du programme Mercury de la NASA. Elle n'est jamais allée dans l'espace. Pour elle, ce sera donc un rêve qui va se réaliser.
Et puis enfin, le foot, il y en a d'autres qui rêvent avec le début ce soir des quarts de finale de l'Euro.
Et notamment Belgique-Italie à partir de 21h à Munich, où malgré la météo maussade, les supporters belges commencent à arriver. Vous avez pu le constater, hein, Cyril de la Morinerie.
Oui, au pied de la cathédrale de Munich, dans un climat automnal, une cinquantaine de supporters belges se tiennent chaud, bière à la main. Ces fans des Diables Rouges commencent à mettre de l'ambiance en pensant aux voisins et rivales français d'ores et déjà éliminés.
On se fait chambrer, c'est vrai, par les Français, parce qu'on n'a pas d'étoiles sur le maillot. Si on peut une fois gagner un grand tournoi, on fêtera ça pendant très longtemps. On espère que les Français nous supporteront jusqu'au bout.
D'autant qu'un certain Thierry Henry, champion du monde avec la France, fait partie du staff de la Belgique, où il est en charge des attaquants.
C'est vrai que c'était un des meilleurs attaquants du monde, même si c'est un Français. C'est bizarre en fait qu'il est dans l'équipe des Belges et pas des Français.
En tout cas, se rendre à Munich fut pour les supporters belges un vrai parcours du combattant. Difficile de trouver des billets, passer les tests, avoir les attestations pour franchir la frontière. Eric, qui vient de Namur, a fait 700 km et espère voir son équipe triompher des Italiens.
Ce sera du 50-50. Un petit avantage pour notre attaquant Lukaku, qui connaît parfaitement le championnat italien. Pronostic, ben, je vois quand même une victoire de la Belgique, 2-1, voilà.
Et ce soir, il y aura 1500 supporters belges prêts à entonner la Brabançonne.
Voilà, Cyril de la Morinerie à Munich avec les supporters belges, Belgique-Italie ce soir à 21h et puis Suisse-Espagne à 18h.
Ah oui, la Suisse est toujours dans l'euro, c'est vrai.
Et oui, c'est vrai.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. C'est l'heure du journal du tour avec Marguerite Lefebvre, bien sûr. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on commence Marguerite par écouter la joie d'un revenant.
Gagner une étape du Tour, c'est la plus belle des victoires pour un coureur. Je suis super fier de mon équipe, c'est vraiment génial.
Mark Cavendish qui confirme son incroyable comeback.
Oui, déjà victorieux à Fougères il y a 3 jours, le Britannique a doublé la mise hier à Châteauroux, une ville qui lui réussit plutôt bien. C'est là qu'il avait remporté sa toute première victoire sur le Tour en 2008. Depuis, il y a eu des hauts et des bas, notamment cette dépression dont il semble enfin sorti. Écoutez son coéquipier, Tim De Klerk.
C'est incroyable, Marc il a vraiment fait un truc extraordinaire. C'est seulement les vrais champions qui peuvent faire ça. Tu le vois, il est vraiment relax et on rigole bien. C'est vraiment bien de travailler pour quelqu'un comme lui.
Marc Cavendish, 36 ans, c'est donc l'histoire d'un revenant qui titille aujourd'hui le cannibale Eddy Merckx et ses 34 victoires sur le Tour. Cavendish en est à 32 et il pourrait donc faire tomber ce record mythique d'ici les Champs-Élysées.
On passe au chiffre du jour, Marguerite.
Et là, il faut s'accrocher. 249, c'est le nombre de kilomètres que le peloton va devoir avaler tout à l'heure. C'est l'étape la plus longue de ce Tour, entre Vierzon et le Creusot. Cette distance aura forcément un impact sur la course, selon le Belge Philippe Gilbert.
C'est pas quelque chose de commun dans une course à étapes d'avoir 250 kilomètres. Donc, ça peut une barrière aussi mentale. Hein, donc, ça fait un peu peur. Ouais. Personne des grosses équipes va vouloir user des forces. Donc, demain, je vois bien une grosse échappée, partir et prendre beaucoup d'avance.
Étape longue et taillée pour les baroudeurs, car si le début est assez plat, le final, lui, sera beaucoup plus compliqué, avec notamment la dernière bosse, le signal Duchon et ses passages à 18% qui vont faire mal après 6 heures d'effort. Début de cette 7e étape du Tour, ce sera à 11h tout à l'heure.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre, c'était le journal du Tour sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h12, on est vendredi matin, parfum de vacances, on vous l'a dit. Alors si on terminait en musique, les Corégies d'Orange, festival d'opéra et de musique classique au Théâtre Antique d'Orange, dont la jauge vient d'être relevée. Ce matin, un habitué, le ténor Roberto Alagna, est mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais d'abord, l'éclairage écho avec vous, Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est une bonne surprise, il n'y aura pas, comme on le craignait, une explosion du chômage. C'est même le contraire. L'INSEE a annoncé hier que le marché du travail aura même retrouvé son niveau d'avant-crise dès la fin de cette année.
Oui, et sur le plan économique, au moins l'épisode de Covid aura été vite effacé. On a d'ailleurs du mal à le croire quand on lit ces chiffres. L'INSEE a annoncé hier que le taux de chômage va finir à 8% cette année. On est très loin des chiffres catastrophiques qu'on annonçait encore il y a quelques mois. On parlait de 10, voire de 11%. La France comptera même 320 000 emplois supplémentaires à la fin 2021. On est donc en présence d'un marché du travail très dynamique. Si on ajoute à cela le rebond attendu de l'économie, qui sera d'au moins 6% cette année, toujours selon l'INSEE, on est face à un paysage radieux, là où on attendait plutôt une morne plaine.
Ah oui, clairement. Pourtant, le gouvernement, lui, se garde bien de crier victoire.
Oui, et il a même décidé de laisser filer encore un peu plus la dépense publique l'an prochain. Pas question de relâcher trop vite l'effort de soutien à l'économie engagé pendant le Covid. Pas question de compter sur la seule reprise attendue pour sortir la France de la crise. Résultat, selon un document préparatoire au budget 2022 établi par Bercy, la croissance de la dépense hors mesures spécifiques liées au Covid sera de 1,5%, un rythme de croisière plus élevé que prévu. Résultat, le déficit restera encore élevé en 2022 avec 5,3% du PIB. Ce que disent ces chiffres, c'est qu'il n'est pas question de revenir à la rigueur dans la gestion de nos finances publiques, surtout que nous serons dans une année d'élection présidentielle.
Oui, oui, il y a ça aussi, il y a le volet politique bien sûr. Alors à qui profiteront ces nouvelles dépenses ?
Alors les trois ministères qui s'en sortent le mieux seront la Défense, l'Intérieur et l'Éducation avec des crédits en forte hausse. La Justice et la Recherche auront aussi un coup de pouce. Et ce qu'il faut noter, c'est que comme tous ses prédécesseurs, Emmanuel Macron aura manqué à sa promesse, celle de diminuer le nombre de fonctionnaires. Il avait annoncé une baisse de 120 000 postes au cours de sa campagne. Finalement, les effectifs seront stables. Il n'est décidément pas facile de faire maigrir l'État dans notre pays.
Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. C'était l'éclairage Échos. Il est 7h15 sur Europe 1, le regard international avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, nous sommes le 190e jour de l'année, c'est le dernier jour de la saison, c'est l'acquis mon cher Mathieu.
Oui, la Turquie se retire d'un traité international pour la protection des femmes.
Et hier c'est donc le 189e jour de l'année, et la Turquie dénombrait précisément 189 femmes assassinées depuis le début de l'année. Donc exactement une par jour, et tous les jours, même les jours fériés, une femme turque tombe sous les coups comme midi sonne à l'horloge. Et pourtant hier, le président Erdogan a annoncé que son pays quittait un traité international que la Turquie avait été la première à signer il y a 10 ans, la Convention d'Istanbul, qui fixe des normes juridiques contraignantes pour éviter les violences sexistes.
Depuis minuit, la Turquie s'en est retirée.
Alors ça fait bizarre parce que la Convention d'Istanbul n'est plus en Turquie. C'est d'autant plus bizarre qu'on y tue de plus en plus de femmes. Et pour officialiser sa décision, Erdogan a attendu la tenue à Paris sous les auspices de l'ONU, du Forum Génération Égalité, qui met des milliards sur la table pour promouvoir l'égalité des genres. Le président turc rejette cette vision parisienne. Selon lui, le traité sape les valeurs familiales et les appelle à ne pas faire de discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, normalise l'homosexualité.
Oui, mais ça ne l'a pas gêné pendant 10 ans.
Mais depuis 10 ans, la Turquie a changé. Et l'Europe a changé encore plus. Elle adopte des lois sociétales et impose une vision ultra-progressiste sur toutes ces questions. Le fossé s'élargit et pourtant la Turquie est l'un des rares pays musulmans où l'homosexualité n'est pas interdite. Erdogan est en campagne, sans doute, il rassemble ses partisans que révulse l'idéologie du genre. Et les femmes en feront donc les frais. On a vu hier en Tunisie comment les islamistes au pouvoir tolèrent les violences faites aux femmes. La dirigeante du parti Destourien Libre, le parti laïque de ceux qui regrettent Bourguiba et même Ben Ali, la force qui monte en Tunisie en ce moment, cette femme protestait contre un accord financier traité, signé avec justement le Qatar, le fief des islamistes. Habir Moussi, donc, soupçonne du pire les frères musulmans. Eh bien, leur compagnon de route s'est levé de son siège pendant la séance au Parlement pour la faire taire. Un coup de poing dans le bras, un autre dans la tête. La séance a été suspendue. Trois minutes seulement. Et le député n'a pas été sanctionné. Le Parlement est présidé par le frère Rached Ghannouchi, faut-il le rappeler. Conséquence, hier dans l'hémicycle, un autre député a frappé cette fois à coup de pied à Habir Moussi. Aux yeux des furieux, toute opposition est une provocation. Et toute femme provocante doit être châtiée.
Vincent Hervouet, le regard international tous les matins sur Europe 1. Merci Vincent, il est 7h18 et dans un tout petit instant, on va retrouver Virginie Fulpin, l'édito sport. Et juste après, nous avons rendez-vous avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Comme c'est la dernière de la saison, je vous dis au revoir, goodbye, tchuss. Mais d'où viennent tous ces mots ?
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est aujourd'hui que la Fédération Française de Foot annonce sa liste de 22 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Tokyo. L'exercice est difficile, plusieurs clubs refusent de libérer leurs joueurs pour ce tournoi olympique. Pour vous, il va falloir que le football clarifie ses rapports avec les JO.
Bah les Jeux, tu les aimes ou tu les quittes, parce que cet entre-deux commence à être pesant et l'équipe de France va partir aux JO sans avoir la meilleure équipe possible. C'est tentant d'accuser de tous les maux les clubs qui refusent de laisser leurs joueurs participer aux Jeux Olympiques. Ils les privent d'un rêve de sportif, ils méprisent à la fois les joueurs et l'histoire du sport et ils montrent à quel point ils n'ont que faire du tournoi olympique, ce qui est quand même un peu gênant alors que Paris 2024 approche. Oui, c'est tentant, mais est-ce qu'on peut véritablement en vouloir à ces clubs récalcitrants ? Je suis pas sûre. Pour les autres sports, tout s'arrête pendant les JO qui sont le graal absolu. Pour le football, la FIFA et l'UEFA n'ont toujours pas prévu de trêve internationale pendant les Jeux, par exemple. C'est-à-dire que les championnats se déroulent normalement et continuent leur petit bonhomme de chemin, comme si les JO n'avaient pas lieu. Ils ne font pas partie du calendrier du football. Vous ne pensez pas qu'il est là le problème ? On peut presque comprendre ces clubs peu enclins à laisser filer un de leurs joueurs, un de leurs salariés, alors que leur activité habituelle continue, simplement comme ça pour la beauté du geste. Certains le font, hein, ils libèrent leurs joueurs et on peut saluer leur attitude, mais les autres se cachent derrière le règlement de la FIFA, pas de trêve, pas d'obligation. On peut regretter leur attitude, mais on peut aussi la comprendre.
Alors, les relations entre le football et l'olympisme ont toujours été complexes.
Ah bah, c'est peut-être le moment de clarifier les choses. Soit les instances du football considèrent les Jeux Olympiques comme un rendez-vous essentiel, et la FIFA doit alors bloquer les dates du tournoi olympique pour le sacraliser en quelque sorte. Et elle écrit noir sur blanc que les clubs ne sont pas autorisés à dire non quand un de leurs joueurs est convoqué en équipe nationale olympique. Soit on considère que les Jeux Olympiques ne sont pas importants pour le football, et vice-versa d'ailleurs. Et on peut aller jusqu'à retirer le football des JO. Du foot, on en voit à longueur d'année, les compétitions se multiplient. Et les Jeux peuvent être un moment où le foot laisse la place à des sports moins dévoreurs de temps et d'images en mondiovision. Pourquoi pas, c'est une réflexion qu'on peut avoir. En fait, c'est le flou artistique autour du foot et des jeux qui crée les problèmes. Et la FIFA qui veut jouer sur tous les tableaux aussi. Une clarification me semble nécessaire, ça éviterait quelques psychodrames.
Je vais y arriver. Merci beaucoup Virginie Fulpin.
Juste un mot Mathieu, je vais m'adresser aux fans du Paris Saint-Germain que vous êtes. Sergio Ramos, le défenseur, la légende du Real Madrid qui devrait arriver à Paris. Franchement, Leonardo, il n'a pas lésiné comme cadeau de départ.
C'est pas mal, hein
ouais, c'est,
c'est pas mal.
En plus, on peut quand même dire qu'il a les cheveux qui poussent à peu près à la même vitesse que vous.
Hein. Je crois que j'ai lancé
autant de coupes de cheveux que vous. Capillairement, il y a un truc avec Sergio Ramos.
Merci Virginie Fulpin, ça a été un plaisir d'échanger avec vous ces deux années sur l'édito sport. Je pense qu'il y avait un format très sympa pour parler de sport et parler de sport à tout le monde. Et grâce à vous, Virginie, et à votre plume, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Je l'arrête parce que je peux la faire pleurer. Je suis capable.
Il manque pas grand-chose.
7h23, Stéphane Bern est avec nous, bien sûr, pour un moment d'histoire. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière de la saison. Il est donc temps de se dire non pas adieu, mais au revoir. Car comme disait le grand Charles, un jour ou l'autre, nous nous reverrons ensemble. Bref, pourquoi dit-on goodbye, au revoir et tchuss?
Oui, aussi ciao, à la prochaine, à la revoyure. Autant de façons de se saluer en souhaitant se revoir.
Oui, je vous l'accorde, mon cher Mathieu, j'aurais pu faire aussi les origines de « à plus dans le bus », mais non, j'ai gardé ma dignité, moi. Partons sur le plus simple « au revoir ». Cela vient des marins. « Au revoir », c'est se souhaiter bon vent avant d'un départ, tout en se souhaitant se revoir, et si possible, vivant.
Oui, tant qu'à faire.
Au XVIIe siècle, on disait dans sa formule intégrale « adieu jusqu'au revoir ». Alexandre Dumas, en 1847, fait une différence dans Le Vicomte de Bragelonne, le dernier roman de la trilogie des Mousquetaires, entre « adieu » et « au revoir ». D'Artagnan, agonisant, dit « au revoir » à Porthos, qui est déjà mort, sous-entendu qu'il va le revoir, alors qu'il dit « adieu » à Aramis, car ce dernier est encore en vie. En vous racontant cela, je me rends compte que je viens de vous spoiler, de vous divulgâcher. Mais alors pourquoi « goodbye » ? Eh bien, comme « adieu », on s'en remet aux bonnes grâces du Seigneur. Durant le XIVe siècle, on dit « God be with you ». Et si on segmente dans « goodbye », on reconnaît le « God » by « good », le « be » dans « bye » et le « you » dans « bye » également. Pour ne pas faire de jaloux, en allemand, c'est « Auf Wiedersehen », mais aussi « tschüss » de façon plus familière, qui veut dire « salut » ou « ciao ». Nous, on l'utilise, eh bien, ça vient de « Schussfahrt », qui désigne une grande pente dans laquelle on fait tout « schuss ». Bref, on se dit au revoir de façon directe et franche, un peu comme au ski, quand on va directement en bas le plus rapidement possible. Voilà, tradition oblige, même pour la dernière petite citation, un optimiste, c'est un monsieur qui croit qu'une dame a terminé sa conversation téléphonique quand elle a dit au revoir. C'est de l'écrivain Marcel Achard.
Eh bien Stéphane Bern, je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir. Et merci de nous avoir éclairés tous les matins de cette année. D'ailleurs, au revoir, on va se revoir très vite, dès 16h sur Europe 1, c'est historiquement vôtre.
Absolument, pour la dernière émission de la saison, on réunit l'architecte catalan de génie Anthony Gaudi, qui s'est lancé dans l'entreprise folle de la Sagrada Familia, le street artiste Keith Haring, et un chanteur qui a connu un énorme succès avant de laisser sa tournée inachevée et de faire une pause dans sa carrière, Stromae, Stromae. Leur point commun, bah, c'est pas fini. Ils ont laissé une œuvre inachevée. Un peu comme nous.
Trois petits points. On continue à l'écrire, Stéphane, mon cher Stéphane. Merci beaucoup, il est 7h25. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal avec Sophie Echen. À tout de suite. À 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Oui, je ne vais pas faire dans le détail, hein. Je ne vais pas vous dire ici il va pleuvoir, ici il ne va pas pleuvoir. Non, il ne pleuvra pas aujourd'hui. Il ne pleuvra dans aucune région, quasiment aucune région, même si nous avons trois averses près des frontières du Nord-Est. Mais nous aurons un soleil voilé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On pensait que le soleil serait rayonnant, il sera toujours un petit peu teinté. Mais enfin, la journée s'annonce agréable puisque les températures seront quand même de l'ordre de 23 à 33 degrés. C'est-à-dire si nous aurons, disons, ah oui, comment on va, comment on va, On dira, c'est un temps agréable. Voilà, c'est tout. On va pas dire autre chose. Et sur le bassin méditerranéen, nous aurons du soleil avec un petit peu de vent.
Merci.
J'ai terminé.
Vous avez terminé ? Non, j'avais un doute.
Non, j'ai terminé parce qu'on a d'autres choses à faire.
Tout va bien. Ben oui, on continue, on avance. Et puis on vous retrouve juste avant 8h, évidemment, pour un nouveau point sur la météo du jour et du week-end, évidemment. On est vendredi. Merci Laurent Cabrol. 7h29. Sophie Echen est avec nous en studio. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est presque 7h30.
Beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui pour ce premier week-end de départ en vacances. Bison futé, voie rouge en région parisienne. Et votre portefeuille aussi quand vous ferez le plein à une station-service. Les prix du carburant flambent ces derniers jours. Dans ce journal, la justice française ouvre une enquête contre 4 géants du textile accusés de profiter du travail forcé des Ouïghours persécutés en Chine. Le Tour de France retire sa plainte contre la spectatrice qui a fait tomber la moitié du peloton avec sa pancarte. Et puis le dérèglement climatique, illustré en musique, une version des 4 saisons revisitée à la fin de ce journal.
Et juste après ce journal, évidemment, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité, le tête-à-tête Europe Matin avec le ténor, la star de l'opéra, Roberto Alagna, l'édito politique Nicolas Bétou.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU presse la France de créer des statistiques ethniques et revoilà un débat vieux comme la République.
Et puis enfin, juste avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et vous prenez peut-être la route des vacances aujourd'hui. Attention, bison futé, voie orange dans le sens des départs et même rouge en Ile-de-France. Mais en plus des potentiels bouchons, il y a un autre élément qui risque de plomber l'ambiance. La halte à la station-service pour faire le plein de carburant. Les prix explosent et c'est parti pour durer, Maud Descamps.
Avec le litre de samplon 95 à 1,55€ et celui de gasoil à 1,43€, la facture s'annonce salée si vous vous apprêtez à traverser la France au volant. Sur un Paris-Nantes, par exemple, il vous faudra débourser 5,20€ de plus que l'an dernier à la même période. Sur un Paris-Nice, ce sera 12€ de plus. Pour Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, même si le prix du brut venait à se stabiliser, il n'y aurait pas grande différence à la pompe.
On peut avoir une stabilisation des prix du brut. Si tel est le cas, à ce moment-là, les prix à la pompe resteront stables. Étant donné qu'on a à peu près 60% de taxes aussi bien sur le samplon que sur le gazoil, l'impact du prix du brut ne se fait ressentir que sur les 40% de prix hors taxes.
Mais la flambée des prix ne devrait pas empêcher les stations-service de faire le plein si les chiffres de fréquentation en mai étaient 15% en dessous des niveaux d'avant-crise. Les propriétaires exploitants de stations-service indépendants disent ressentir un léger frémissement depuis le mois de juin.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Et à la veille des brassages de touristes en France et en Europe, l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé. Le virus est toujours là, le risque d'une nouvelle vague est réel, notamment à cause du variant Delta. L'OMS s'attend à ce qu'il soit dominant sur le vieux continent d'ici le mois d'août. Et justement, le Portugal fait marche arrière et rétablit le couvre-feu dans 45 villes à partir d'aujourd'hui, dont Lisbonne et Porto, interdit de circuler entre 23h et 5h du matin.
Posons-nous une question à présent. Les vêtements que nous portons, que vous portez, ont-ils été fabriqués dans des camps qui exploitent les Ouïghours en Chine ?
4 géants du textile et de l'habillement sont actuellement dans le viseur de la justice française. Uniqlo, le groupe Inditex qui possède les marques Zara et Bershka, SMCP qui détient Sandro et Maje, ou encore le chausseur de sport Skechers. Tous sont soupçonnés d'avoir profité du travail forcé des Ouïghours.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Le parquet national antiterroriste vient d'ouvrir une enquête pour recel de crimes contre l'humanité.
Oui, une enquête ouverte sur la base d'une plainte très circonstanciée d'associations et d'une Ouïghour rescapée d'un camp d'internement dans le nord de la Chine. Leur avocat, maître William Bourdon, reproche par exemple au géant espagnol Inditex qui détient les marques Zara, Bershka, de traiter avec des producteurs de coton qui exploitent les Ouïghours.
Pas besoin de faire une enquête en Chine pour savoir qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis. Ce qui compte, c'est la connaissance qu'avaient ces anciennes textiles de ce qu'elles faisaient. C'est très compliqué pour elle, de faire valoir une naïveté, une ignorance. Cette enquête, elle ouvre des tas de perspectives. Elle va aussi créer un risque judiciaire supplémentaire pour ceux qui pensaient pouvoir s'accommoder d'une forme de duplicité.
Et les investigations débutent tout juste à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Avec une difficulté, vous l'avez compris, les enquêteurs ne pourront pas bénéficier d'une entraide pénale internationale avec les autorités chinoises. Si l'enquête aboutit, les entreprises incriminées risquent une amende d'1 million d'euros et tout responsable identifié encourt la prison à perpétuité.
Marion Dubreuil, 15 heures de perquisition place Vendôme. Les gendarmes de la section de recherche de Paris ont quitté le ministère de la Justice tard hier soir. Perquisition menée dans le cadre de l'enquête qui vise Éric Dupond-Moretti, soupçonné de conflit d'intérêts entre son action de garde des Sceaux et ses anciennes fonctions d'avocat. L'ultimatum du Conseil d'État au gouvernement en matière de climat, la France a 9 mois pour prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pour tenir l'objectif d'une réduction de 40% d'ici à 2030. Et par ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale nous apprend que le record de chaleur en Antarctique a été battu l'année dernière. Plus de 18 degrés enregistrés sur la banquise en février 2020.
On vous parlait cette semaine, bien sûr, de cette spectatrice du Tour de France qui avait provoqué une énorme chute au sein du peloton après avoir simplement brandi une pancarte en plein milieu de la route.
Recherchée pendant 4 jours, arrêtée, puis placée en garde à vue finalement, les poursuites engagées contre elle par les organisateurs de la Grande Boucle ont été abandonnées. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, appelle au calme.
Il faut clairement faire retomber la pression. Cette histoire prend des proportions folles, insensées, ça n'a vraiment plus de sens. Donc cette dame a fait une bêtise, elle n'a pas fait attention. Nous, ce que nous voulons, c'est répéter qu'il faut faire attention pour que la fête du Tour de France reste la fête du Tour de France. Quand on vient en famille, on tient les enfants par la main. Quand on est en groupe, on est tous du même côté de la route. On ne sacrifie pas tout pour une photo. Voilà. Mais voilà, faisons retomber la pression, calmons-nous. La dame s'est présentée spontanément à la gendarmerie. Maintenant, il faut rester calme, tranquille, et ça ira mieux pour tout le monde.
Christian Prudhomme avec Axel May. 7e étape aujourd'hui, la plus longue du Tour, 250 km entre Vierzon et le Creusot. Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, conserve le maillot jaune.
Et puis, on va terminer ce journal en musique avec un tube que vous avez certainement entendu des dizaines de fois. Oui, c'est un tube. Les 4 saisons de Vivaldi.
Et des réinterprétations, il y en a eu celle-ci. Et signé Nemanja Radulović, un violoniste franco-serbe qui se produit ce soir au Festival des Corégies d'Orange. Lui, il revisite le chef-d'œuvre de Vivaldi avec des variations de tempo extrêmes qui reflètent selon lui les changements du climat lors d'Autriche.
Oui, Nemanja Radulović est une rockstar dans le monde de la musique classique, toujours habillée de noir, avec des pantalons en cuir, des rangers, de longs cheveux bouclés qui balaient son visage. Chacune des 4 saisons est traduite en musique par Vivaldi, et en jouant ce soir sur le tempo et le rythme, le violoniste veut traduire le dérèglement du climat. Comme ici, les canicules qui sont de plus en plus intenses en été. Ou encore, on peut imaginer le froid de l'hiver qui nous glace le corps à travers ces notes de Vivaldi et le climat qui se détraque. Alors, avec Nemanja Radulović, les puristes grincent parfois des dents, son archet virevolte, ses doigts bougent à toute vitesse. Il lui arrive de prendre aussi quelques libertés avec la partition, mais il offre toujours en concert un spectacle étonnant.
Les 4 saisons donc, et justement à propos de saisons, Mathieu, je voudrais vous remercier pour celle qui s'achève aujourd'hui. Un grand merci pour votre accompagnement, votre professionnalisme, ce fut un réel plaisir de travailler avec vous.
Merci Sophie Echen, merci beaucoup, merci de nous avoir accompagnés tous les matins, le journal de 7h30, celui de 6h avec Sébastien Krebs aussi, et encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de la nuit, les copains de la nuit, c'est particulier une matinale et c'est à travers vous, voilà, je remercie toutes les équipes qui sont là, en horaire décalé. On a coupé Vivaldi, vous savez, on va rester en musique, et on va rester d'ailleurs au Corégie d'Orange, on va se réveiller avec Roberto Alagna. Peut-être que vous chantez sous la douche là après Vivaldi. Je vais lui demander ce qu'il chante lui sous la douche. On peut demander ça à un ténor? Oui, je vais lui demander. On va parler des Corégies d'Orange. On retrouve Roberto Alagna pour 2 représentations dans cette édition du festival. Mais d'abord, la touche âme, Bertrand Chamerois et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, musique toujours. Il n'est pas impossible que je chante tout à l'heure.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de La Touche Âme, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Désolé, quelle galère pour rentrer. Je pensais que mon badge avait été désactivé, je me suis dit, c'est rapide. En fait, je bornais avec mon passe Navigo, donc quel crétin. Plus de peur que de mal. Bon, ça va vous? Ouais, super. Allez, ce matin, à quelques heures des vacances, je vous parle d'un bateau. Un bateau sur le pont duquel se trouvent des centaines de passagers. Non, stop, on arrête avec les métaphores filées, ça marche pas super. Bon, allez, c'est la dernière, Mathieu. On va pas chialer non plus. En plus, j'ai une bonne nouvelle avant les vacances, ça fait toujours plaisir. La matinale fait un carton. Pardon, elle m'a dit, fais ces cartons, correcteur automatique. Putain. Mais rassurez-vous, ce sera fait proprement. Hein. C'est les déménageurs bretons qui s'en occupent, ça va être de la belle ouvrage. Bon, quoi qu'il en soit, Mathieu, vous avez réalisé une performance admirable, franchement. Bravo pour ces 14 ans à la matinale. Je sais, vous en avez fait deux, mais ici, ça compte en année de chien. Un an égale 7, donc bravo pour ces 14 années, belle perf. J'ai toujours été maladroit pour les au revoir, hein. Je ne sais jamais trop quoi faire. Donc je me suis dit que le mieux, étant donné que vous avez découvert cette saison mon goût pour les chansons vintage, je me suis dit que ce serait de terminer en musique en vous faisant découvrir ma playlist. Ça vous
ah oui. Ouais.
Allez, c'est parti.
Oui.
Ouais. Non. Pardon, autant pour moi, ça s'est lancé en aléatoire. Attendez, je mets autre chose. Non, j'y suis pour rien, désolé. Attendez, je passe. Coupez-moi ça, le shuffle, c'est vraiment une tannée. Le mieux, c'est que je chante directement moi-même. Ce serait dommage de se priver de ce joli brin de voix de Rossignol de la Riviera une dernière fois. Prépare du coton, parce que les oreilles vont peut-être saigner. Allez, musique. T'avais les cheveux longs, un joli bouc sur ton menton. On s'est connus comme ça. Le sommeil, tu connais pas. Naïfs comme des enfants, on croyait se marrer pendant des ans. Toi pour faire le malin, tu t'acclais, j'ai Radarmanin. Qu'est-ce que tu fais au mois de septembre? On va devoir changer d'adresse. Je serai, je pense, un peu en chalance si tu deviens égérie.s.
Ouf, bon. Vous avez un dictionnaire de rimes.
Oui. Reverse.com. Je vous présente mes excuses hein, jusqu'au bout. Vocalement, ça aurait été une boucherie. Quoi qu'il en soit, Mathieu, je voulais te dire merci beaucoup. Merci pour ta bienveillance. Tes rires, la liberté totale que tu m'as accordée avec l'équipe actuelle. Je souhaite à tout le monde de rencontrer un Mathieu Béliard dans sa vie, c'est précieux. Ce fut court mais intense, comme le veut l'expression. Grâce à toi, je suis devenu du matin. Parfois, la nuit tombe plus tôt que prévu. Tu nous as fait écouter le monde changer, il va sans doute un peu trop vite. Mais on n'y peut malheureusement rien, alors je te souhaite plein de bonnes ondes. Allez, à ciao, bonsoir.
J'aime bien cette chanson. Mais... je l'ai dans la tête depuis deux semaines, vous savez, Bertrand Chamerois. Alors, on se dit tu maintenant?
Oui, on se dit tu.
Et moi, j'ai envie qu'on aille au karaoké ensemble. Un karaoké à Belleville avec toute l'équipe. On a déjà fait ça une fois, j'ai envie de refaire ça parce qu'on n'avait pas Bertrand Chamerois à l'époque. Je vois Sophie Echen, non?
Ça manquait.
Oui, envie de chanter peut-être.
Ah oui, mais toujours. Oui.
Il n'a pas eu de voix de la semaine et le dernier jour, il était là pour chanter du David et Jonathan.
Jusqu'au bout.
J'adore votre playlist, Bertrand Chamerois. Merci beaucoup. À 10h tout à l'heure pour la dernière avec Philippe Vandel. Dans Culture Média, ne manquez pas ça, bien sûr. Il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
On va rester dans la musique, hein. Avec les Corégies d'Orange, le festival de musique classique et d'opéra, il n'y aura pas Bertrand Chamerois, je vous le promets. La vie qui reprend en plein air, la jauge du festival vient d'être relevée. On va parler de musique, on va en écouter, bien sûr, avec mon invité que l'on retrouve les 10 et 24 juillet sur la scène du Théâtre Antique d'Orange. Illustre ténor, mon invité ce matin, le chanteur lyrique Roberto Alagna.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Roberto Alagna, bonjour.
Bonjour.
Samson et Dalila de Saint-Saëns, lorsque vous interprétiez Samson en 2018, le 10 juillet, vous réinterprétez ce personnage. Cette année, on fête le bicentenaire de Camille Saint-Saëns.
Je trouve que c'est formidable parce que vraiment Camille Saint-Saëns est un compositeur génial. Je trouve qu'il est inspiré, il a une sorte d'état de grâce et on l'entend dans cette œuvre, dans ce Samson, on a vraiment l'impression d'une inspiration divine.
La jauge autorisée dans le Théâtre Antique d'Orange passe de 3700 à 5000 places sur 9000. De nouvelles places seront donc en vente très vite pour la représentation de Samson et Dalila le 10 juillet. Idem pour le 24 juillet, la nuit Verdi, qui était complète et qui voit de nouvelles places s'ouvrir. Vous sentez comme ça une envie du public de vous retrouver?
Ah oui, bien sûr, mais j'espère qu'il y aura encore une surprise et qu'on puisse remplir complètement la jauge. Ça serait formidable. Ça voudrait dire que nous sommes en train de terrasser ce virus. Ça voudrait dire que ça donnerait l'espoir et qu'on puisse d'ici la semaine prochaine pouvoir dire, tiens, bah voilà, on peut ouvrir encore plus de places. Ça serait formidable.
Et vous, alors, vous-même, hein, Roberto Alagna, le public en face de vous, est-ce qu'on n'est pas un petit peu rouillé après cette période de gel de la culture?
Si, c'est vrai qu'on est un petit peu rouillé, c'est vrai. Mais là, on est en train de se dérouiller avec les répétitions, puisque vous savez que les répétitions sont très intenses à Orange. On travaille tous les jours, des répétitions qui commencent l'après-midi et même des fois un petit peu le matin, parce qu'on a des essayages de costumes le matin. Ensuite, on redémarre à 17h30 jusqu'à 19h30 et ensuite 21h jusqu'à minuit. Donc vous voyez, c'est très intense. Donc on a le moyen de se dérouiller un peu.
On est venu voir le chanteur qu'il faut voir, celui qui rit, celui qui pleure.
Vous alternez entre le lyrique et des projets plus pop, plus variété, de Luis Mariano au cabaret avec votre dernier disque Le Chanteur. Que trouvez-vous dans la chanson que l'opéra n'offre pas, Roberto Alagna?
Non, rien du tout, mais je fais de la musique, c'est tout. Et la musique est une. Et je crois que la mission de l'artiste, c'est déjà d'essayer de toujours se dépasser, d'aller le plus loin possible, c'est un petit peu comme un sportif. Il faut trouver la force de pouvoir surmonter des tas d'obstacles. Et lorsque je fais de la musique, pour moi, c'est de la musique. Il n'y a pas de barrière. C'est comme si aujourd'hui, avec un Stradivarius, on ne pouvait pas jouer du jazz ou de la mélodie ou de la chanson. Parce que c'est un Stradivarius, il faudrait juste jouer du Mozart. Je sais pas. Ça serait une sorte d'apartheid musical. Et je n'aime pas ça, donc j'aime bien la liberté, j'aime que la musique soit une, et voilà, c'est pour ça que j'ai une passion pour la musique. Je suis un mélomane et j'aime toutes les musiques, même si ma préférée c'est bien sûr l'opéra, ma musique préférée, mais je ne dénigre pas aussi les autres musiques.
Si je vous suis bien, c'est pas tant une récréation qu'un challenge personnel, un défi.
Ah oui, bien sûr, c'est toujours un défi, mais c'est un défi avec soi-même. Parce que, et justement, il ne faut pas expliquer trop au public, parce que si le public savait les difficultés qu'on peut avoir en préparant une voix, en travaillant sa voix, etc., ben il souffrirait autant que nous, et alors il n'aurait plus le plaisir. C'est pour ça qu'il faut laisser un côté magique comme ça et ne pas trop expliquer ce qui se passe. Il faut pas, voilà, l'important c'est de goûter le plat une fois qu'il est fini, mais toute la cuisine avant, ça nous regarde, et il faut surtout pas la divulguer, parce que c'est tellement difficile que je crois que les gens en souffriraient.
Qu'est-ce que vous chantez sous la douche, Roberto Alagna?
Oh, moi je chante de tout, mais vous savez, j'ai une âme de compositeur, donc j'aime bien composer, et souvent il m'arrive de composer des mélodies, des chansons comme ça sous la douche, et je vais même vous dire quelque chose d'incroyable, c'est que sous la douche, on est tous très très forts, vous savez, on chante bien, je sais pas, on se sent bien, rien n'est impossible, alors on fait des roucoulades, on fait des vocalises, on peut se permettre l'impossible sous la douche.
J'ai lu que vous avez découvert votre voix à l'adolescence. En fait, j'ai lu que vos amis trouvaient que vous chantiez trop fort.
Oui, ça c'était déjà, je chantais déjà dans des cabarets ou dans des restaurants. Mais j'ai découvert la voix bien avant ça, puisque déjà je chantais lorsque j'étais enfant. Ensuite, j'ai eu une période où je me suis un petit peu, par timidité, j'ai un petit peu arrêté de me produire, parce que c'était l'âge de raison, vers 7-8 ans, comme ça, j'ai eu une timidité. J'ai pris conscience de l'importance du chant, et là donc j'ai freiné un peu mon ardeur et je me suis mis à jouer de la guitare, et je me suis caché un peu derrière la guitare et accompagné les autres. La passion est revenue, et je me suis très vite mis à chanter à nouveau en famille, mais très vite aussi dans les restaurants d'abord, et puis à partir de 17 ans j'étais déjà dans les cabarets professionnels, et puis depuis je n'ai plus jamais arrêté. J'ai commencé l'opéra, j'avais 20 ans. Et voilà, donc vous voyez, ça fait déjà 38 ans que je suis dans ce monde, et je dois dire que j'ai été très très chanceux et un peu privilégié, parce que je ne m'attendais pas du tout à faire une telle carrière. Je pensais que tout était impossible pour moi, et j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif, et même à toucher presque la lune.
Vous êtes un habitué des corégies d'Orange, on se rappelait des années passées. Votre première, c'était en 1993. Vous vous souvenez de la première fois?
Oui, bien sûr, c'était très très difficile parce que je faisais des allers-retours avec Paris. J'avais ma première épouse qui était très malade, elle était à l'hôpital, et donc je faisais des allers-retours et c'était très difficile. Et du coup, je n'avais pas pu goûter à l'ambiance d'Orange, puisque je finissais les répétitions et je partais aussitôt. Et je dois dire que j'ai ensuite, je me suis aperçu de la beauté d'Orange quelques années plus tard lorsque je suis revenu, et puis ensuite toutes les productions que j'ai pu faire ici. Et d'ailleurs, je vous le dis, vous voyez, par exemple, je loue toujours la même maison depuis des années, et tous les souvenirs remontent comme ça. Alors, je suis envahi de nostalgie parce que je vois ma fille Ornella courir dans le jardin, je vois mon père faire le barbecue, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont disparus. Et voilà, donc la nostalgie s'empare de moi comme ça, mais en même temps, et c'est la beauté de ce lieu où j'ai passé plusieurs années de ma vie des années très importantes pour moi.
On vous retrouve donc les 10 et 24 juillet au Corégie d'Orange, Camille Saint-Saëns, puis la nuit verdienne. Merci beaucoup, Roberto Alagna.
Merci, merci à vous. Bonne journée.
Roberto Alagna, dans le tête-à-tête Europe Matin, sur Europe 1. Il est 7h50. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. On retrouve Nicolas Bétou, bien sûr, l'édito politique. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU vient de publier un rapport pressant la France de recourir aux statistiques ethniques.
Et la première réaction lorsqu'on entend ce genre de déclaration, c'est de se dire, mais de quoi se mêlent-ils ces droits de l'hommistes, ces donneurs de leçons, ces moralisateurs bien-pensants? C'est vrai quoi, la France a une tradition solidement ancrée, un principe même, pas de statistiques ethniques, pas de comptage par race ou par origine, et elle n'entend pas en changer. Sauf que, vu ce que devient notre société, ça mériterait peut-être quand même qu'on s'interroge.
Ce que devient notre société, c'est-à-dire ?
Ben, je vous renvoie aux propos d'Emmanuel Macron dans une interview au magazine Elle, qui s'inquiète de voir la société se racialiser progressivement. Dans cette déclaration, le chef de l'État pointe en fait la montée de la cancel culture, ce mouvement qui voudrait effacer de notre histoire les épisodes qui ne sont plus lisibles avec notre regard d'aujourd'hui. Il pointe aussi le phénomène « woke », qui veut mobiliser, réveiller les consciences contre les inégalités provoquées par la race, mais aussi par le genre ou l'origine sociale. Ces tendances existent, le communautarisme existe, le président de la République les voit progresser.
Et qu'est-ce qu'il propose pour lutter contre la montée de ce phénomène ?
Un grand principe, l'universalisme républicain, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il n'y a pas, dans notre République, de différence entre les individus. Nous sommes tous égaux, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ben oui, c'est la Constitution qui l'affirme. Et tout ça fait dire à Emmanuel Macron qu'il ne se reconnaît pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou à son particularisme. Tant mieux, mais prendre cette posture ne suffit pas, ou ne suffit plus. En appeler au dogme républicain est désormais un peu court.
Mais qu'est-ce que les statistiques ethniques ont à voir avec ça ?
Ben, je vais vous répondre par une question, pour une fois, enfin pour la dernière, c'est moi qui la pose, cette question. Est-ce qu'on peut lutter efficacement contre un phénomène sans le connaître vraiment, sans le mesurer précisément ? Ben évidemment non. Pour combattre le racisme et avoir une chance de vider de sa substance tout ce qui nourrit cette victimisation de ceux qui se pensent stigmatisés en fonction de leur race, alors on doit absolument connaître la réalité de ces communautés, leur nombre, leur histoire, leur mode de vie. On doit pouvoir mesurer l'écart qui les sépare du citoyen lambda. On doit renoncer à cette fiction selon laquelle ces écarts n'existeraient pas puisque la République est là. On pourra alors réfléchir en connaissance de cause à des mesures ciblées, pourquoi pas à des quotas, des politiques d'affirmative action. Et puisque les gens ressentent de plus en plus leurs différences, la traiter au lieu de la nier.
Votre édito politique le matin sur Europe 1. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. 7h55. Et tous les matins, juste avant 8h, c'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale, vous le savez. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et Jean Castex voulait lui dire un mot.
Fifi. Oui, bonjour, monsieur Béliard. Bonjour, madame Mabrouk, monsieur Cabrol, monsieur Bétou. Et bonjour à Frédéric Vidal. Et bon, comme vous avez dû le lire dans Le Parisien, Frédéric Vidal pourrait bientôt nous quitter. C'est la saison, c'est des départs. D'ailleurs, je vais lui annoncer de façon originale. Frédéric, les membres du Conseil des ministres ont voté. Et malheureusement, tu quittes l'aventure. Tu prends ton sac, ton flambeau, les marcheurs ont décidé de t'éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Voilà, bon, Mathieu, quant à vous, il vous reste une petite heure à peine pour trouver un collier ou un totem d'immunité. Il doit être bien quelque part, je ne sais pas. Cherchez peut-être dans le bureau de Pierre de Villon, on ne sait pas. Un tiroir.
C'est où ? Merci beaucoup. Nicolas Canteloup, évidemment à la radio. Et puis à regarder quand même en vidéo sur Europe 1.fr. Vous revenez à 8h45, Nicolas.
Avec plaisir.
Évidemment, Nicolas Canteloup pour la revue de presse. Et Sonia Mabrouk avec Frédéric Vidal à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, Laurent Cabrol pour la météo et le journal de 8h avec François Geffry. À tout de suite. Il est 7h58 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est la réalité.
Et la pluie a mis les voiles, mais le voile est resté, et toute voile dehors, il nous offre une journée voilée, puisque ce sera la météo d'aujourd'hui, avec un ciel qui sera malheureusement un peu obscurci par ce voile. Donc sur la Normandie, la Bretagne, le Poitou-Charentes, le Limousin, il sera assez épais, le voile bien sûr, et sur le Midi-Pyrénées et le bassin méditerranéen, nous aurons de bonnes chances d'éclaircies. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelques gouttes de pluie quand même, parce que quand le voile est un peu épais, il nous donne 3 gouttes, notamment en Ile-de-France, pas impossible ce soir, comme sur les régions du Nord-Est et sur la Bourgogne. Voilà pour une journée qui s'annonçait très ensoleillée, qui l'est beaucoup moins que prévu. Voyons maintenant les températures qui, elles, sont vraiment...
Vous passez un peu vite quand même. Moi, je m'attendais à un vendredi ensoleillé. Pas de pluie, cela dit, pour nous.
Pour nous,
vous à Paris, parlez... les Parisiens, les Français.
Si, il y en aura un petit peu ce soir.
Ce soir.
Faut bien arroser.
On sera devant les matchs.
Il faut bien arroser la fin de la saison quand même. Alors, 23 Caen, 24.
Vous ne loupez pas une, mon chaleur.
24 Strasbourg, 25 Nice, 26 Paris, je donne quelques températures. 28 Bordeaux, 31 Marseille, 33 Carcassonne. Vous êtes né où, Mathieu ?
À Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ah. Vous avez la météo de Boston ? Alors, fais-moi le malin, Laurent Cabrol.
À la colle.
Sinon, je suis des Deux-Sèvres. Moi, ma famille est originaire des Deux-Sèvres.
Ah, bon. Sinon, Laurent, si je peux me permettre de demander la météo à Tunis, ça peut m'intéresser aussi. Mais bon. Vous n'allez pas vous en sortir ce matin.
Non, je vous laisse ta parole.
Non, les Deux-Sèvres, blague à part, oui, partenaient dans les Deux-Sèvres, vous l'avez.
27
degrés, c'est, oui. Pas mal, c'est pas mal. Personne ne parle jamais des Deux-Sèvres, donc ouais. Pour une fois, il faut le citer, le 79. Bon, merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol, à tout à l'heure pour un nouveau point météo. La météo pour tous, vous l'aurez entendu. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer.